Si vous voulez ouvrir vos Bibles avec moi dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, et on va lire trois versets. Les versets 33 à 35. Donc, Luc chapitre 23, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant: Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Donc la première parole que nous avons ici, c'est le Seigneur Jésus qui dit: Pardonne-leur, au verset 34, hein, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et il faut s'imaginer que on est à Jérusalem, en pleine fête de la Pâque. Il y a des milliers de Juifs qui sont là. Aucun doute que tous ont déjà entendu parler de Jésus de Nazareth, ce prophète, ce Messie. Celui qui se dit même parfois fils de Dieu, celui qui a fait des miracles, il a ressuscité même un homme qui s'appelle Lazare. C'est extraordinaire. Et cet homme-là, peu de temps avant la crucifixion, il a été arrêté, il a été battu, il a été torturé. Et puis voilà qu'on le crucifie. Et tout le monde était là, je suppose, venait voir ce fameux Jésus de Nazareth. Certains ne l'avaient peut-être pas encore vu, juste entendu parler, ils se disaient: c'est qui? Qui est cet homme? Et puis ils ont vu un homme crucifié entre deux brigands. Et on voit plusieurs réactions. Donc il y a le peuple, hein, qui se tient là et qui regarde. On n'en sait pas forcément plus. Ce peuple qui peut-être peu de temps avant, sous la pression des chefs religieux, criait crucifie-le, crucifie-le. On a les magistrats, je suppose aussi les chefs religieux, qui se moquaient de Jésus, hein, un moqueur. Toi, t'as sauvé les autres, et ben sauve-toi toi-même. Les soldats aussi se moquaient de lui. Peu avant, dans les versets avant, on voit aussi une foule de femmes qui suit Jésus et qui pleurent. Et Jésus se tourne vers cette foule et leur dit: Mais ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Et puis il y a ces deux malfaiteurs aussi à côté de lui. Et dans cette parole que le Seigneur Jésus donne ici: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils avaient vraiment aucune idée de ce qu'ils étaient en train de faire. Les soldats romains qui ont planté les clous dans les mains du Seigneur Jésus, ils ont fait couler le sang qui était en train de couler pour leurs péchés, pour les sauver. Ils n'en avaient aucune idée. Ceux qui étaient en train de se moquer du Seigneur Jésus, ils étaient en train de se moquer de leur Créateur. C'est lui, dit la Bible, hein, qui est le Créateur du monde, le Créateur de nos vies. Et ils ne le savaient même pas. Ils étaient en train de le crucifier, de se moquer de lui. Ils ne le savaient pas. Et puis, ceux qui pleuraient sur le Seigneur Jésus, eux non plus, ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas compris. Parce que ils pleuraient sur lui, parce qu'ils avaient pitié de lui. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur voulait, hein. Il leur a dit: pleurez sur vous-même. Parce que si je meurs, c'est pour vous racheter finalement. C'est pour vous sauver. Pleurez sur vos péchés. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ça m'a fait penser au verset en Ésaïe 53, cette prophétie sur le Messie, hein. Le premier verset, il dit: Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et oui, le Seigneur Jésus était élevé, crucifié, mais personne ne comprenait ce qui se passait. Personne ne comprenait que c'était un plan divin et éternel qui était en train de se réaliser sous leurs yeux pour le rachat de l'homme, pour la réconciliation entre Dieu et l'homme. Et puis on a le Seigneur Jésus qui savait très bien, lui, ce qui se passait. Et il comprenait très bien que ces hommes étaient loin d'imaginer ce qui est en train de se passer. Et on voit l'amour du Seigneur Jésus dans cette parole, hein. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train de le crucifier, mais le Seigneur Jésus a une vision bien plus haute que toutes ces choses. Il voit le plan éternel, il voit le salut, le rachat, et il dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vais m'arrêter là.
Passe au deuxième point et regardons Luc chapitre 23 encore une fois, versets 39 à 45, non, 43, pardon. 39 à 43. L'un des malfaiteurs qui était pendu l'outrageait aussi en disant, « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre, le reprenant, lui dit, « Ne crains-tu donc point Dieu, car tu es condamné au même supplice ? » Et pour nous, c'est avec justice, car nous souffrons ce que nos œuvres méritent, mais celui-ci n'a fait aucun mal. Et il disait à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. » Au milieu du silence, d'une des croix même, le brigand repenti parle. Est-ce qu'il mesure le poids de ses propres paroles? Est-ce qu'il sait de quel royaume il demande l'accès? Dans les versets 41 et 42, on voit que ce pénitent reconnaît, premièrement, la justice du châtiment qu'il subit, l'innocence du Christ, deuxièmement, troisièmement, la divinité du Christ, quatrièmement, la vie du Christ au-delà du tombeau. Et cinquièmement, le royaume après la croix dont Jésus sera le roi. Pour bien comprendre cette déclaration par Christ, nous devons comprendre comment le pénitent aurait interprété. En tant que juif, il s'attend à ce que sa mort serait l'expiation de ses péchés. Par conséquent, il n'aurait pas pensé qu'il avait besoin de pardon à travers le Messie. Mais les paroles de Christ lui disent le contraire. Aussi, lorsque Christ a parlé du paradis, le pénitent, naturellement comprendre cette partie du Sheol, en grec Hadès, dans laquelle les esprits des justes habitaient jusqu'à la résurrection, et dont nous lisons dans Luc 16, où il est appelé le Saint d'Abraham. En effet, la prière « Que ma mort soit l'expiation de mes péchés » est toujours dans l'office des morts parmi les Juifs. Les paroles de notre Seigneur contredisent cette croyance. Au lieu de cela, la déclaration a enseigné le pénitent que l'admission au paradis devait être accordée par Christ. Nous devons nous rendre compte que pendant la vie de Christ sur terre, en effet, avant la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte, les gens ont toujours d'abord appris à croire en la personne de Christ, puis à connaître son enseignement et sa mission pour le pardon des péchés. C'était donc dans ce cas également. Si le brigand, repentant, avait appris à connaître Christ et à demander une reconnaissance gracieuse dans son royaume à venir, la réponse du Seigneur transmise non seulement le confort que sa prière a été exaucée, mais l'enseignement des choses spirituelles qu'il ne connaissait pas encore et dont il avait tant besoin de connaître. Le pénitent avait parlé de l'avenir, Christ a parlé d'aujourd'hui. Le pénitent avait prié concernant le royaume messianique qui devait venir, Christ lui a assuré en ce qui concerne l'état des esprits désincarnés et lui a transmis la promesse qu'il serait là dans le séjour des bienheureux, paradis. Et par le moyen de Christ lui-même comme Messie, je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Ainsi, Christ lui a donné cette connaissance spirituelle qu'il ne possédait pas encore, l'enseignement concernant aujourd'hui la nécessité de l'admission gracieuse au paradis avec et par Christ, en d'autres termes concernant le pardon des péchés et l'ouverture du royaume du ciel à tous les croyants. Et ce passage nous enseigne la vérité sur les conditions du salut qui dépendent de la repentance et de la foi. Mais il a encore d'autres leçons importantes. Le salut est indépendant des ordonnances. Le malfaiteur n'avait jamais été baptisé et n'avait jamais pris le Saint-Cène. Il a montré hardiment sa foi en présence d'une foule hostile et sous les insultes et les sarcasmes des magistrats et des soldats. Pourtant, il était sauvé sans avoir été soumis à un rite quelconque. Ceci rend encore plus évident que le salut est indépendant des bonnes œuvres. De plus, cette histoire réfute le soi-disant sommeil de l'âme. Le corps peut dormir, mais l'âme reste consciente après la mort. De plus, on ne trouve dans ce passage aucun argument en faveur d'un purgatoire. Le malfaiteur quittait une vie de honte et de péché pour entrer tout de suite dans un état de béatitude. Sachant aussi que le salut n'est pas universel, il y avait deux malfaiteurs, un seul était sauvé. Le brigand repenti, en se donnant à Dieu, obtenait, ouvrier de la 11e heure, le maximum du salaire, car l'intention du cœur suffit pour recevoir le pardon. Bref, sa foi suffit. Remarquons enfin que le motif profond de la joie qui nous attend après la mort, c'est la communion avec Christ. Au cœur de la promesse faite aux brigands sont ces mots, « Tout sera avec moi ». Telle est aussi notre bienheureuse espérance. Pour nous, partir, c'est être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur.
Eh bien, le passage que j'ai eu, parce que c'est le dernier qui restait, donc. Mais j'étais content de l'avoir. Je vais vous le lire, vous ne le cherchez pas. C'est Jean chapitre 19, versets 26 et 27. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple : Voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Alors, dans ces paroles, on trouve beaucoup de choses intéressantes. Même si le texte est court, eh bien, il y a quand même des choses intéressantes. La première, c'est que le Seigneur Jésus, du haut de sa croix, eh bien, il a vu sa mère et Jean. Et il a pensé à sa mère et à l'avenir de sa mère. Parce que désormais, il n'était plus là pour la soutenir. Et il est vrai qu'en tant que mère, elle souffrait énormément parce que bien qu'elle ne soit, elle était la mère de son humanité. Je sais qu'il y a eu une fausse théologie, une fausse doctrine qui a dit que c'était la mère de Dieu. Elle n'est pas la mère de Dieu. Elle est la mère de l'humanité du Seigneur Jésus. Certains disent qu'elle est la mère de son corps, mais beaucoup plus que cela, c'était l'homme parfait, accompli. Tel nous sommes, tel il était. Et dans son humanité. Mais après, il y a sa divinité. Alors là, Marie n'est en rien dans sa divinité. Mais le Seigneur Jésus a pris soin de sa mère. Et il est conséquent avec lui-même, conséquent avec son amour divin. Il pense à sa mère et à lui donner un avenir et un soutien. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. De se souvenir que le Seigneur Jésus n'a pas oublié sa mère dans un pareil moment. Alors, toutes les religions qui méprisent les parents, il y a des religions qui prétendent aimer Dieu plus que les parents, et il y a le mépris des parents, eh bien, cela ne peut pas être un enseignement biblique. Il y a aussi deux autres choses à souligner. La première, c'est l'absence de la famille. Vous n'avez pas les frères et les sœurs du Seigneur Jésus. Pourtant, il est question dans le reste des évangiles, souvent, au moins à plusieurs reprises, il est question de la famille du Seigneur Jésus. Il y avait ses frères, il y avait ses sœurs, et les sœurs étaient probablement mariées, et certains peut-être des frères aussi. Donc ces personnes-là ne sont pas, au moment ultime du Seigneur Jésus, au moment où il est crucifié, eh bien, elles ne sont pas là. Et cette absence est tellement évidente, et leur absence est tellement flagrante qu'elle arrive même à nous scandaliser que la propre famille du Seigneur Jésus l'a abandonnée. Alors que l'on cite beaucoup l'hospitalité du Moyen-Orient et comment dans le Moyen-Orient les gens se soutiennent les uns les autres, eh bien, dans cette question-là, ils ont oublié leurs frères et ils l'ont mis carrément de côté parce que c'était dangereux d'être avec lui. Et puis, il y a aussi une autre absence, c'est celle des disciples. Alors, les disciples sont suivis pendant 3 ans, 3 ans et demi même. Ils ont apprécié son enseignement. Ils ont apprécié beaucoup de choses et ils étaient de bons spectateurs et de bons contributeurs du ministère du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus les a utilisés aussi pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ils ont guéri des malades, il est dit qu'ils ont guéri des malades, ils ont même baptisé. Ils ont fait des multitudes de choses au nom du Seigneur Jésus, envoyées par lui. Et au moment où le Seigneur Jésus avait peut-être plus besoin d'eux que n'importe quel moment, eh bien, ils n'étaient pas là. C'est-à-dire que la famille et les hommes faits, les hommes adultes, les hommes majeurs, matures, eh bien, n'étaient pas là. Ce qu'il y avait, finalement, c'était un jeune homme. Et quand il est question de Jean, il en est question comme quelqu'un qui relativement jeune. C'est-à-dire, dans la pensée de cette époque, sociale de cette époque, c'était un homme immature. C'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas encore la pleine jouissance de tous ses privilèges de citoyen, ou si je peux m'exprimer ainsi, pour les juifs c'était un peu différent, mais de la vie de tous les jours. Il était sous tutelle quelque part. Il avait besoin encore qu'on prenne des décisions pour lui. Et la majorité était beaucoup plus tardive que pour nous aujourd'hui. Mais ce jeune homme, eh bien, est là. Et il est présent. Et c'est, vous savez, quand on est jeune, la mort ne fait pas peur. Plus on avance en âge, et plus la mort devient redoutable. Il y a l'expérience de la vie, et il y a l'expérience aussi que nous avons du temps qui est court. Donc c'est vrai que les jeunes se sacrifient plus facilement que les personnes d'âge mûr. Et bien c'est ce qui est arrivé dans cette époque. Ils étaient raisonnables, ils étaient sages, ils ont préféré ne pas courir de risques, parce qu'avec le Seigneur Jésus, il y avait des risques. Et ils l'ont laissé parce que c'était dangereux d'être avec lui. Tandis que Jean, eh bien, dans tout l'enthousiasme de sa jeunesse et de son amour particulier pour le Seigneur Jésus, eh bien, il l'a suivi. Il l'a suivi complètement. C'était quelqu'un qui était fortement attaché au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus était vraiment son Dieu. Il a peut-être bien que, malgré sa jeunesse, sa foi dans le Seigneur Jésus était plus adulte que celle des autres disciples. Il voyait plus loin que les autres disciples, parce qu'il voyait la personne même. Et cette personne-là était plus que tout. Tout son avenir disparaissait si jamais le Seigneur Jésus devait mourir sur la croix. Lui ne voyait pas la résurrection, mais il n'y avait plus rien qui existait pour lui. Et qu'il meure à ce moment-là, pour lui, cela n'avait plus d'importance. Parce que le centre même de sa vie, tout ce qui le motivait, était en train de mourir sur une croix. Et il était prêt à tout perdre. Et il avait déjà tout perdu. Mais à ce moment-là, le Seigneur, le voyant en lui, fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la mort, prêt à la mort, même s'il le fallait, eh bien, il lui confie sa mère. Et je peux dire qu'il lui a offert un grand privilège, et c'est une grande confiance. Vous me direz, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autres. Mais c'est parce que, justement, il n'y avait pas les autres. Les autres n'en étaient pas dignes. Ils s'étaient jugés pas dignes d'avoir une mission aussi délicate et aussi durable que celle de prendre soin de la mère du Seigneur Jésus. C'était un grand privilège. Et c'est une parole réconfortante que quand on donne sa vie au Seigneur, quand on est prêt à tout donner, eh bien, il nous confie le maximum.
La quatrième parole est en langue araméenne. Nous tirons ça dans Matthieu 27, 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabatani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ici, nous voyons dans ce si nous voulons avoir le contexte de ce que nous venons de lire, serait bien de pouvoir retourner dans le psaume 22, où nous voyons le contexte où la Bible dit là-bas, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, ça fait mention du bon berger, n'est-ce pas, qui donne sa vie pour ses brebis. On a aussi cette référence dans Jean 10, verset 11. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez, le Seigneur Jésus n'avait commis aucun péché. Mais il s'est chargé lui-même, volontairement, de notre culpabilité, on peut dire de nos péchés, d'une manière volontaire. Nos péchés se sont accumulés sur lui. Ça veut dire que Jésus, il est devenu le substitut, n'est-ce pas, innocent. Il nous a remplacés en portant sur lui nos péchés. Et parce que Dieu est saint, il ne peut pas fermer les yeux sur le péché. Au contraire, il doit le punir. Ainsi, Dieu s'est éloigné de son Fils bien-aimé. Dieu s'est éloigné de lui. Et cette séparation, c'est cela qui a entraîné ce cri déchirant. Cette séparation a amené Jésus à crier que nous avons « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous comprenons que Dieu est saint. À cause de ce péché que Jésus a, nos péchés qu'il a portés sur lui, Dieu ne peut pas voir cela et puis accepter de pouvoir rester. Et cette séparation en fait que le Seigneur, Jésus a senti très fortement en lui le besoin. Et ceci l'a amené à pouvoir lancer ce cri déchirant. Vous savez, en méditant cette question, j'ai beaucoup réfléchi à cela. S'il y a une chose, j'essaie d'appliquer cela à moi-même, qui pourra faire que le Seigneur va s'écarter de moi, c'est le péché. Et donc, le Seigneur a voulu, n'est-ce pas, il a exprimé l'état de son cœur ici, en sentant dans sa chair, dans son corps, ce besoin. Et ceci l'a amené à faire ce cri-là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je crois que le Seigneur nous interpelle en se rappelant que le temps qu'il avait vécu n'est pas un temps facile. C'est un temps très, très douloureux, très difficile, mais ce n'est pas parce que lui, il a péché. Il est saint, mais il a accepté volontairement de porter sur lui nos péchés, et c'est ça qui l'a amené à pouvoir vivre ce qu'il a vécu à la croix. Que le Seigneur nous donne de pouvoir marcher dans la sainteté pour le glorifier. Amen.
J'ai soif. C'était la cinquième parole de notre Seigneur Jésus sur la croix qui nous a été rapportée dans Jean 19, verset 28. En ces termes, il est écrit : Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. Le fait que c'est l'évangile de Jean, cet évangile qui présente essentiellement la divinité de Christ, qui nous rapporte cette parole, revêt un intérêt vraiment très particulier. C'est-à-dire qu'il y a une grande importance dans cette parole-là. Oui, dans son humanité, on peut dire que Jésus a réellement soif. Vu l'intensité de la crucifixion, vu la chaleur de la journée, c'était probablement entre midi et 15 heures, la scène se passait. Vu aussi la distance qui sépare le lieu du procès, du lieu de la crucifixion, tout être humain pourrait avoir soif dans ces conditions-là. Le problème est que si on a soif, on boit de l'eau. Si on a soif, on prend de l'eau ou quelque chose pour étancher sa soif. N'est-ce pas? Mais ici, au lieu de lui donner de l'eau à boire, on lui a donné quoi? Du vinaigre. Du vinaigre à quelqu'un qui dit « j'ai soif ». Mais auparavant, lorsque Jésus était arrivé au lieu de la crucifixion, ils avaient déjà refusé une boisson. Eh bien, quelle est cette boisson? C'était du vin mélangé à du fiel. Le fiel, c'est en quelque sorte la bile des animaux, hein. C'était comme ça. Donc, on peut dire que c'est un poison. Mais pourquoi Jésus avait refusé cette boisson dont nous parlent Marc et Matthieu? Le vin mêlé au fiel est toujours donné aux criminels. Et ces criminels qui sont condamnés, qui étaient condamnés à la croix pour adoucir leur souffrance. Et c'est en quelque sorte un calmant ou bien une anesthésie, anesthésie, comme on peut le dire. Donc, Jésus n'a pas besoin d'anesthésie. Jésus n'a pas besoin de calmant. Jésus doit souffrir pour nous, pour nos péchés. Donc, il n'y a pas de calmant, il n'y a pas d'anesthésie. Il doit souffrir afin que l'Écriture soit accomplie. Et cette Écriture qui s'est accomplie, nous la trouvons dans le psaume 69, verset 22, qui dit « Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Jésus est la parole. Il est l'accomplissement des prophéties. Lorsque Jésus dit « J'ai soif », à cette heure précise, quelle était vraiment la soif de notre Seigneur Jésus? De quoi s'agit-il? Et vraiment, est-ce que Jésus a vraiment besoin de l'eau pour boire? Est-ce que Jésus a vraiment soif de cela? Non. Jésus avait soif des âmes. Jésus avait soif de la vérité. Jésus avait soif de la justice et d'amour pour nous. Il a soif de devenir pour ceux-là qui se confient en lui. Il a soif de devenir la source d'eau vive pour eux. La soif du Seigneur Jésus a caractérisé son ministère ici-bas. La Bible nous dit qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen.
Donc, la sixième parole, c'est en Jean, chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit grâce. Et la question qu'on peut se poser, c'est quand il dit « Tout est accompli », qu'est-ce qu'il veut dire par « Tout est accompli » ? Et donc, quand j'ai fait des recherches, il y a plusieurs choses. Quand il dit « Tout est accompli », il parle premièrement de l'accomplissement de sa vie. Parce qu'il est venu sur la terre, il parle de l'accomplissement de son œuvre. On le voit aussi en Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, verset 34, où il dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et donc, quand il dit tout est accompli, c'est qu'il a accompli ce pourquoi il est venu. Et on voit aussi, quand il est mort sur la croix, où il dit tout est accompli, c'est qu'il a accompli aussi notre rachat. On le voit en grec, le mot en grec c'est tétélestai. Et on a retrouvé donc des tablettes avec la mention tétélestai, c'était des tablettes qui avaient cette mention pour dire que la dette était réglée. Et donc la dette était réglée, puis c'était fini, c'était réglé, on n'en parlait plus. Et quand Jésus dit tétélestai, quand il dit tout est accompli, c'est qu'il a accompli la dette pour vous, il a accompli la dette de vos péchés. Quand il était sur la croix, il a dit tout est réglé. Et donc aussi bien les péchés passés, les péchés présents que les péchés futurs. Et ce que cela peut nous apporter aussi en tant que chrétien, c'est que quand il dit tout est accompli, c'est que tout a été accompli. Et donc même l'œuvre qu'il a prévu de faire en nous, ben, Dieu l'accomplira aussi en nous. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse.
Avant la dernière parole, on fait encore une pause. Pensez-vous que c'est un hasard qu'il y ait 7 paroles prononcées, 7 étant le chiffre de la perfection, le chiffre de Dieu. Et le Seigneur a prononcé une dernière parole. Il a prononcé avec force. Et nous trouvons ça dans Luc 23, à partir du verset 44. Luc 23, 44. « Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure, c'est-à-dire entre midi et 15 heures. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Sa dernière parole est pour le Père. Et c'est étonnant, au début de la crucifixion, il dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il vit, comme l'a très bien dit notre frère, cette séparation avec son Père. En tant qu'homme, Jésus est séparé du Père parce qu'il porte nos péchés. Il est jugé à notre place. Mais là, tout est accompli, il a tout payé, le jugement est passé. Maintenant, il peut dire, « Père, je reviens à toi, Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Vous noterez qu'il n'est pas dit que Jésus mourut. Il n'est pas dit, « La mort prit Jésus. » Ou il est dit, « Je remets mon esprit entre tes mains. » Jésus a redonné son esprit au Père. Nous mourons. Jésus, lui, il remet son esprit et il expira, le mot expira, ça veut dire il rendit son souffle, hein, son dernier souffle. C'est-à-dire le souffle, dans la Bible, c'est le même mot pour dire souffle que pour dire esprit. C'est le même mot exactement. C'est le contexte qui permet de savoir. Il remet son esprit, il remet son souffle, il rendit son dernier souffle. Pourquoi Jésus n'est pas mort au sens humain comme les autres hommes? C'est parce que, nous l'avons vu, il était sans péché. Il a accompli la volonté du Père de la première seconde de sa naissance jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Il n'a jamais désobéi une seule fois à son Père. Il était en constante communion, il obéissait continuellement à son Père. Tout ce qu'il faisait, il dit, ça venait du Père. C'est le Père qui lui conduisait, lui indiquait ce qu'il devait faire. Il avait remis sa vie humaine à son Père. Et donc, étant sans péché, il ne devait pas mourir, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Ceux qui meurent, ce sont ceux qui ont péché. Il fallait donc que Jésus accepte de se soumettre à la mort et qu'il se donne lui-même, qu'il remette son esprit et qu'il expire. Ce n'est pas la mort qui nous a volé le Sauveur, hein, qui s'est emparé du Seigneur. C'est lui qui s'est livré à la mort. Il a donné sa vie, dit la Bible. Pour beaucoup, Jésus est une personne, le pauvre, il est mort en martyr, voilà. Il avait des idées un peu révolutionnaires. Quand vous regardez le Nouveau Testament, les évangiles, à aucun moment vous n'avez ce portrait d'un Jésus faible qui subit des choses. Tout est accompli comme Dieu l'a dit, comme la Bible l'avait prophétisé, jusqu'à la dernière seconde, au dernier souffle. Il crie fort. Quand on était crucifié, on n'avait plus de souffle. La crucifixion était faite de telle façon que vous ne pouviez plus soulever votre cage thoracique pour respirer. Il fallait tirer sur ses bras. Et en tirant sur les bras, vous aviez les clous qui vous torturaient. C'était un poteau de torture, la croix. Et normalement, on n'avait plus de souffle et on expirait avec un râle. Et Jésus, il crie d'une voix forte et intelligible. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » C'est ce qui fait que le centurion, verset 47, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit « Certainement, cet homme était juste. » Le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à son dernier souffle, a manifesté sa gloire, sa divinité et en même temps sa dépendance avec le Père. Il a livré sa vie. Il n'est pas allé en enfer comme certains le pensent. La Bible ne dit jamais que Jésus est allé aux enfers. Il a remis son esprit et il a subi notre mort, notre condamnation, mais il s'est livré à cette mort et il a payé toutes nos fautes. Il n'avait pas besoin d'aller en enfer pour payer nos fautes. Mais il a pris la juste condamnation que nous méritions et il a rendu son souffle au Père. Nous avons un Seigneur merveilleux. Toutes ces paroles qu'il a prononcées sont empreintes de solennité, de dignité. Il ne parle pas sur la croix comme quelqu'un qui souffre la torture. Il confie sa mère à quelqu'un, il dit « pardonne-leur ». Quand vous êtes pris de douleurs atroces, vous criez, vous râlez, mais vous ne dites pas ces sept paroles-là. On voit que là, nous avons affaire au Fils unique de Dieu. Il n'y a que le Fils unique de Dieu qui pouvait prononcer ces paroles. En plus, c'était prophétisé. Certaines d'entre elles étaient annoncées dans l'Ancien Testament. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? On a vu, j'ai soif. » Et nous pouvons adorer le Seigneur qui a donné sa vie pour nous volontairement et qui a tout payé jusqu'à la dernière goutte. Il a payé notre dette, notre condamnation. Il a souffert pour tous nos péchés. Et je suggère que, avant de terminer par un chant, nous ayons un moment de prière à haute voix.